RCF.
Suite et fin d'une série d'entretiens consacrés à la joie en compagnie du philosophe Martin Stephens, auteur d'un petit traité de la joie paru chez Salvator, mais également d'un autre livre qui s'intitule « Vivre ensemble, la fin du monde » paru également chez Salvator. Martin Stephens, nous traversons une période très difficile à l'heure actuelle, crise économique, crise sociale, crise écologique, crise politique, on pourrait multiplier. Est-ce que nous avons le droit d'être heureux, d'être joyeux, alors que tout va mal? C'est une question que vous posez dans votre livre.
Oui, oui, parce que la tentation, j'ai envie de dire, c'est de se dire qu'on n'a pas le droit d'être heureux tant que le monde ne sera pas parfait, juste, tant qu'il y aura de la misère, et que toute personne qui se pique d'être joyeux alors même que le tiers-monde existe, pêche par bourgeoisie. Bon. Au contraire, je renverse la chose en disant que c'est uniquement parce que la vie vaut par elle-même d'être vécue qu'il faut se battre contre les injustices. Sinon, on devient terroriste. Si on se dit que tant que la vie ne sera pas digne d'être vécue, eh bien, on ne sera pas joyeux. On veut transformer le monde à coups de bombes, à coups de tout ce qu'on veut. Alors que, oui, il faut inverser. C'est parce que la vie est bonne que c'est scandaleux que beaucoup d'hommes vivent dans la misère.
Mais on peut se dire aussi, à quoi bon se relever les manches, à quoi bon espérer, puisque je ne suis rien dans ce monde énorme, gigantesque, moi la petite fourmi.
Oui, et c'est d'autant plus vrai dans notre monde qui est devenu trop grand pour nos petits bras. On a l'impression que nous, à notre échelle toute petite, individuelle, on ne peut rien faire. Et ceci est accentué par le journal télévisé dans « Vivre ensemble, la fin du monde ». Je dis que le journal télévisé nous a transformés en dieux ratés. Pourquoi Dieu ? Parce que nous avons l'omniscience. Nous voyons de cet attentat au Nigeria tout dans ses pires détails. Mais cette omniscience ne s'accompagne pas de l'autre attribut divin qui est la toute-puissance. Nous savons tout, mais nous ne pouvons rien. Tant et si bien que le canapé de notre salon devient un banc des accusés et que son moelleux accuse notre mollesse. Et ceci est propre à créer du désespoir et à dire finalement ce que je dois sacrifier, c'est ma joie de vivre. Et on a une lucidité pleine de lourdeur et pleine de tristesse.
Alors ça entraîne une impuissance, une incapacité à agir, mais ça peut aussi entraîner une culpabilité. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien, vite, vite, qu'est-ce que je peux faire?
Ouais, tout à fait. Et je crois qu'on doit vraiment réapprendre le sens du prochain. On est relié à l'autre bout du monde, sachant qu'on ne peut pas faire grand-chose, en oubliant notre voisine du quatrième qui, du haut de ses 85 ans, pourtant aurait peut-être besoin que je lui demande si tout va bien. On oublie notre grand-tante, on oublie d'appeler notre sœur à l'autre bout de la France. C'est-à-dire que dans ce réseau qui nous lie à l'autre bout du monde et qui accuse perpétuellement notre impuissance, eh bien, à ce réseau-là, il faut substituer, là encore, la présence à l'autre, la présence charnelle à mes proches.
Comment accueillir le don de la vie dans un monde justement difficile, avec nos propres difficultés, quand le mal semble plus fort que la vie? Comment accueillir, comment remercier? On a parlé de la gratitude.
Oui, la gratitude, c'est donc accuser réception et c'est se faire un œil pour voir que le mal est toujours fracassant, le mal est toujours bruyant, le mal fait mal, bon, alors que le bien, lui, est toujours discret, secret, il se propose sans s'imposer. Pour le dire bêtement, on pourrait dire qu'un abribus qu'on vandalise, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup d'éclats par terre. Bon, mais un abribus qui tient et va tenir un an, deux ans, cinq ans, lui ne fait pas de bruit. Et finalement, il faut savoir poser sur les choses un regard qui leur permet d'exhaler cette discrétion et ce caractère secret du bien.
Thank you. Martin Steffens, vous êtes l'auteur d'un petit traité sur la joie, mais aussi de Vivre ensemble, la fin du monde, qui est paru récemment chez Salvatore. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le sujet, puisqu'on sait que aujourd'hui on parle d'apocalypse, peut-être d'une fin du monde en 2012. Voilà, il y a une espèce de climat de peur. Mais enfin, on a déjà vu ça dans l'histoire du monde. Qu'est-ce que ça vous a inspiré?
Ça m'a inspiré que, en effet, en l'an 2000, ceux qui parlaient de la fin du monde passaient pour des illuminés, et que 10 petites années plus tard, c'est quelque chose qui s'invite, même dans les conversations les plus banales. Une fois, j'entendais quelqu'un qui regardait la date limite de vente d'une boîte de conserve et qui disait « Oh, 2015, si d'ici là ». Bon, c'est très impressionnant. Et l'enjeu de ce livre, c'est de dire, mais au fond, sans joie, nous est interdit la saveur même de notre existence. Donc, comment penser la joie à l'intérieur même de ces trois sentiments qui sont ceux de nos contemporains, c'est-à-dire le désarroi, la peur et la colère? Comment la joie peut s'inventer dans ces conditions-là?
Alors justement, dans les conditions de la peur, comment peut-elle s'inventer cette joie?
Ah, je crée des pistes dans ce livre qui est un essai. Mais par exemple, la peur, c'est une volonté de maîtriser les choses, bien sûr, et d'avoir peur que les choses nous échappent. Or, c'est un constat tout simple, mais le monde nous échappe. Le monde, on voit bien, l'homme l'a soumis à ses désirs et il nous répond par une catastrophe écologique. Tant et si bien que on peut avoir vis-à-vis de ce monde un autre rapport, beaucoup plus gratuit, qui est de l'ordre de cette contemplation, comme dit le gardien de musée, on touche avec les yeux. Ce monde qu'on a secoué dans tous les sens pour le contraindre à donner tout ce qu'il pouvait donner, on ne peut plus le rendre disponible à nous, mais nous pouvons nous rendre disponible à lui et en accueillir la gratuité de sa présence.
Mais peut-être aussi faut-il être acteur de changement, parce que vous parlez beaucoup de contemplation, de gratitude, d'attitude assez passive. L'action fait aussi partie d'un plan joyeux.
Ah oui, tout à fait. Mais après, l'action, si on veut qu'elle porte, il faut qu'elle connaisse sa source. Comme je le disais tout à l'heure, au fond, c'est parce que la vie vaut d'être vécue que je dois me battre contre l'injustice. Et non pas parce que s'il y a de l'injustice, cette vie sera mauvaise, etc. L'homme a tendance à faire dangereusement des procès au monde. Je cite dans le petit traité de la joie un tout petit peu et dans celui-là plus longuement, Rosa Luxembourg qui disait, parce qu'elle voyait bien dans quelle ambiance elle évoluait, entourée de révolutionnaires, elle leur disait « Mais attention, on ne peut pas être révolutionnaire si on n'aime pas la vie. » Et c'est parce que les fleurs sont belles, et c'est parce que les hirondelles nous annoncent quelque chose de beau que la révolution est légitime.
Vous parlez de peur, d'inquiétude. Alors certes, notre monde pose question. En même temps, il y a eu des périodes très sombres dans l'histoire. On pense aux grandes guerres, 14-18, 39-45, où des gens ont démontré un courage incroyable, une joie de vivre même étonnante. On pense à Etil Soum, cette femme incroyable qui, au cœur de l'horreur, pouvait s'émerveiller encore en regardant sur son balcon ses fleurs.
Oui, c'est ça. Je crois que ce qui nous est demandé, au fond, aujourd'hui plus que jamais, c'est ces pirouettes qui consistent à oser avoir l'audace d'une joie simple et d'une joie lucide. C'est-à-dire que Etil Soum, elle dit jamais qu'elle oublie le réel. Elle dit que la joie s'invente dans ce réel-là.
Et elle va se battre aux côtés de ses frères. Elle est dans l'action aussi.
Ah, tout à fait, mais bien sûr, l'action est primordiale. Mais on pourrait dire que, au niveau d'Etil Soum, action et contemplation sont une seule et même chose. Et c'est pourquoi ces mots nous touchent tant. C'est-à-dire que elle est d'un seul geste et d'un seul mouvement, un poème qui s'écrit et une femme qui agit. Mais sa vie est un poème. Simone Veil disait. Toute vie de saint est une parabole parfaite, un poème parfait. On a envie de dire qu'à ce niveau-là, on est aussi bien dans la contemplation que l'action.
Mais est-ce que ce n'est pas de l'ordre de l'extraordinaire finalement? On parle d'Etil Soum, on pourrait parler de Dietrich Bonhoeffer dans sa prison, de gens qui rayonnent au cœur de la noirceur. Comment comprendre ça? Pour nous qui sommes ordinaires dans nos vies ordinaires.
Mais on le fait aussi. On le fait aussi, on le fait plus qu'on ne le pense. Mine de rien, dans l'épreuve, on continue de se lever le matin. Et ce fait tout ou bête. Hein. On ne connaît pas le poids d'un corps. Pour certaines personnes qui se lèvent facilement parce que leur vie n'est pas difficile, bon, ils ne pèsent que leur poids. Pour d'autres personnes, soulever le poids de son corps le matin, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et c'est encore une fois le travail invisible et discret du bien. Quand la caissière au supermarché me sourit, je ne sais pas quelle quantité de souffrance ce sourire doit charrier pour s'élever et s'adresser à moi. La vertu d'un homme est invisible et au fond, je crois que si l'on savait le secret de chaque vie, on découvrirait que les saints et les héros s'y cachent beaucoup plus qu'on ne le pense.
D'où cette idée que la beauté et surtout la bonté ne fait pas de bruit.
Tout à fait, c'est la grande expérience de l'humilité, c'est que quand on se met à rencontrer quelqu'un, à discuter avec lui, eh bien on se dit d'accord, je comprends mieux et on cesse de juger pour se mettre à aimer.
Et ça, c'est tout le cheminement que nous propose le Christ à sa suite, donc d'aimer avec un cœur humble, ce qui est très difficile, hein, puisque nous rêvons de puissance. On a déjà parlé de ce rêve de puissance de l'homme, alors que Dieu semble délaisser cette puissance tout en étant puissant. Là aussi, on est dans le paradoxe.
Ah oui, c'est des paradoxes extraordinaires d'en vivre ensemble la fin du monde. J'ai un chapitre qui s'appelle « Le point ouvert », parce que je crois qu'on est dans un monde qui suscite beaucoup la colère. On parle du mouvement des indignés, le succès du livre de Stéphane Hessel. Bon, donc c'est un monde qui suscite la colère, mais la colère peut jouir d'elle-même. Voilà, en tant que force, il peut y avoir un goût prononcé pour la colère qui finalement la coupe de sa raison d'être. Tant et si bien qu'il faut sans doute fermer le poing pour frapper sur la table ou pour adresser son coup à ce qu'on estime être indigne de notre humanité. Mais cette colère à provocation toujours de s'ouvrir et d'aimer autrui. Le poing, ça n'est jamais qu'une main qui a dû un temps se fermer, mais qui doit toujours s'ouvrir pour relever l'autre, pour lui tendre la main.
Merci à vous, Martin Steffens. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un petit traité de la joie, mais aussi, c'est nouveau, d'un autre livre, Vivre ensemble, la fin du monde, tous deux parus chez Salvator. Merci à Pierre-Henri Paget pour la réalisation technique.